Chapitre 3. Malgré les trépidations du tuk-tuk, j'avais du mal à jauger la vitesse à laquelle nous allions. Je n'avais aucun repère. Mes trajets occasionnels en péniche avaient été des plus tranquilles, voguant le long du canal tandis que le cheval nous tractait d'un pas régulier. Pour le bal, il nous avait fallu presque toute la journée pour aller d'Ixia à Akebia. Mais en tuk-tuk, cela nous prit 3 heures. Il nous aurait suffi d'une seule, mais nous avons fait une halte dans 2 villages, à Malva, puis à Ulex. Leur maire et leur régulateur en chef n'étaient pas encore revenus d'Akebia. Les villageois étaient donc impatients d'apprendre ce qu'il était advenu de la lumière de l'habitat. Notre arrivée avec des machines en état de marche datant d'avant la mutinerie et capable de projeter des images, bien que très dérangeantes, avait été accueillie avec un étonnement vite suivi par la consternation. Mais cette présentation visuelle avait l'avantage d'interdire que nos paroles soient mises en doute. Je fus heureuse en pensant qu'au moins ces 2 villages-là prendraient quelques précautions. Comprenant que toute leur détresse et leur contrariété étaient dues à mes actes, je me retins un peu plus à Ulex. Je savais qu'une fois le choc initial passé, les gens chercheraient un coupable. Inutile d'avoir le cerveau de Fraser pour comprendre de qui il s'agirait. Je fus plus troublée encore par les péniches croisées lors de notre trajet le long des chemins de halage que par les villages affolés. La disparition de l'eau avait laissé ces embarcations engluées dans la boue épaisse au fond des canaux. Après avoir vu les 2 premiers bassins d'intersection vidés, il devint évident pour nous que toutes les chutes d'eau avaient été désactivées. Je m'étais accrochée à l'espoir pathétique qu'il s'agissait uniquement de celle d'Akebia. Mais non, les Yi avaient tout arrêté. Totalement perdus, les maîtres de péniche ne savaient plus quoi faire. La plupart d'entre eux avaient fait monter à bord leurs chevaux de trait déconcertés, allumant toutes leurs lanternes pour tenter d'empêcher les pauvres animaux de s'affoler dans l'obscurité. Nous n'avions pu que leur conseiller de patienter, leur promettant que nous comptions rallumer les bandes lumineuses. Ils nous avaient dévisagés en silence. À mon avis, ils ne nous avaient pas crus. L'obscurité était trop accablante. C'était bien les Yi, n'est-ce pas ? Demandai-je à voix basse à John tandis que nous nous éloignions de la 7e barge échouée. Je veux dire, le froid aurait-il pu casser les bandes lumineuses ?
Non. Elles fonctionnaient parfaitement lorsque la pression a été remise dans l'habitat, c'est-à-dire au moment où l'air était le plus froid. C'était un acte délibéré. Le fait que les chutes d'eau aient été coupées en même temps le confirme. Vous étiez à l'intérieur du système d'écoulement d'eau, vous avez pu constater combien il était robuste. Elijah a déclenché une explosion au-dessus du débouché et la cascade a continué de se déverser pendant le reste de la nuit.
Oui. Oui, bien sûr. Tu as raison. Je m'ordonnais de cesser d'avoir des doutes.